It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Jolie mélodie qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires a été immortalisée le 11 octobre 1939 à New York par un musicien noir américain que l'on considère toujours aujourd'hui comme l'un des maîtres du saxophone ténor dans l'histoire du jazz. Pour bien comprendre l'importance de ce personnage dans le patrimoine du XXe siècle, il est essentiel de remonter dans le temps à une époque où le rock, la soul, le funk, le rhythm and blues, le hip-hop n'existent pas encore. Même le jazz reste une forme d'expression à l'époque confidentielle. Faisons un bond de 117 ans en arrière et retrouvons-nous en 1904. Coleman Hawkins, dont nous allons parler aujourd'hui, voit le jour le 21 novembre 1904 à Saint-Joseph, dans le Missouri. À cette époque, ce sont les cakewalks et le ragtime qui rythment le quotidien de la société américaine, toujours très réfractaire à l'idée de donner un statut équitable à la population noire. Le petit Coleman Randolph Hawkins grandit dans cette ambiance délétère, égayée parfois par le swing d'une musique en pleine gestation. Le jazz n'est pas encore un vocabulaire musical très structuré au début du XXe siècle, mais le blues rural sudiste est déjà une forme d'expression très représentative de la condition des Noirs aux États-Unis. C'est la complainte de l'esclave que l'on entend à travers ces chants lancinants qui hurlent la douleur de la communauté africaine-américaine malmenée depuis déjà 300 ans. Dans les années 1920, Coleman Hawkins est un adolescent fougueux qui déjà s'illustre dans des orchestres locaux, comme celui de la chanteuse Mamie Smith que vous écoutez actuellement. Il faut dire que Coleman Hawkins eut la chance de naître dans une famille très musicale, comme il le précisait en 1956 à nos confrères américains Bill Grauer et Paul Bacon.
My father could play one piece.
Mon père jouait régulièrement du piano et avait même composé une mélodie, certes assez simpliste. D'ailleurs, j'étais capable de l'interpréter à l'âge de 5 ans. Ma mère jouait de l'orgue à l'église et parfois du piano à la maison. Ma sœur, malheureusement, est décédée alors qu'elle n'avait que 2 ans et demi. Je ne l'ai pas connue. Sinon, je n'ai pas suivi une scolarité normale. C'est dans une école de Kansas City que j'ai découvert le saxophone. Puis, nous avons déménagé à Chicago, où j'ai poursuivi des études. Mais mes souvenirs d'écolier à Saint-Joseph, dans le Missouri, sont très vagues dans mon esprit.
But my school around St. Joe was very short.
Nous sommes maintenant en 1926. Depuis 2 ans, Coleman Hawkins fait le bonheur de son nouvel employeur, le pianiste et chef d'orchestre Fletcher Anderson, qui se félicite d'accueillir dans sa rutilante section de cuivre ce jeune saxophoniste de 22 ans que l'on promet à un grand avenir. Rétrospectivement, Coleman Hawkins ne s'étonnait guère d'avoir avancé à grands pas dans l'univers du jazz, car dans son esprit de jeune virtuose, ses prédispositions musicales étaient évidentes. Je pense avoir toujours été musicien. Dès mon plus jeune âge, je jouais du piano, je devais avoir 5 ou 6 ans. La pratique d'un instrument m'intéressait vraiment. De plus, beaucoup de mes amis d'enfance jouaient également d'un instrument. Quand j'ai commencé à suivre une scolarité à peu près normale, je m'arrangeais pour m'inscrire aux cours de musique. Je voulais participer aux orchestres de l'école. Je me souviens que j'essayais de reproduire les partitions prévues pour des violoncelles sur mon petit saxophone ténor. Je n'ai jamais véritablement délaissé le piano, mais lorsque l'on m'a offert un saxophone à l'âge de 9 ans, ce fut le déclic. Très tôt, on a fait appel à mes services pour les orchestres locaux, mais curieusement, je ne jouais pas le jazz que l'on entendait à l'époque. J'avais une approche très particulière du saxophone. Je ne sais pas si j'étais doué, mais j'avais remarqué que certains de mes camarades parvenaient à produire un son agréable, d'autres se contentaient de faire carrément du bruit avec leurs instruments. Si Coleman Hawkins est aujourd'hui perçu comme un pionnier du jazz, c'est aussi parce qu'il naquit à une époque où une nouvelle forme d'expression s'inventait. Le swing des big bands hérité des fanfares de la Nouvelle-Orléans commençait à entrer dans le paysage musical américain d'alors. Louis Armstrong devenait une figure marquante et le jeune Coleman Hawkins se nourrissait de ce bouillonnement sonore enthousiasmant.
First jazz I heard, yeah, well, that was when I was just a little kid.
Le premier genre musical que j'ai entendu dans mon enfance est évidemment le jazz. Sur la 2e rue de Saint-Joseph où j'habitais, beaucoup d'orchestres se produisaient tout au long de la nuit. J'étais donc dans un environnement musical dès ma prime jeunesse. J'écoutais également beaucoup de disques, notamment ceux des artistes qui se produisaient en ville. Je me souviens que Louis Armstrong et Joe Oliver donnaient régulièrement des concerts à travers les États-Unis. Et je les ai même vus à Chicago lorsque j'étais collégien. Je devais avoir 12 ans. Je ne pensais pas que je serais musicien à mon tour. Je savais seulement que je jouerais du saxophone, puisque c'était ma passion. Je ne pensais véritablement pas que j'aurais du succès. Cela dit, il est vrai que déjà, à l'âge de 12 ans, je jouais dans les écoles, dans les bals populaires. Il faut dire que je ne faisais pas mon âge. On me croyait beaucoup plus vieux. Tout en écoutant ses contemporains, Coleman Hawkins développait sa musicalité en compagnie de jeunes camarades d'école et réalisait qu'il avait déjà beaucoup d'avance sur eux, tant son apprentissage fut précoce.
These early ones we used to play, used to use a piano drums themselves.
Lors de ses tout premiers concerts, nous jouions en trio avec mes camarades un piano, une batterie et le saxophone que j'emmenais partout avec moi. Mon ami pianiste ne savait jouer qu'en fa dièse. Il a fallu que je lui apprenne à jouer en sol. Ce fut une bonne chose pour moi, car j'ai ainsi appris à transposer certaines de mes compositions d'une tonalité à une autre. Indirectement, grâce à lui, je savais déjà jouer avec les tonalités lorsque j'ai choisi de me perfectionner dans les écoles de musique. Je n'ai pas eu le sentiment de découvrir quelque chose de neuf lorsque je me suis inscrit dans des cours de musique, car j'avais déjà en moi la petite expérience de ma jeunesse autodidacte. Les professeurs nous faisaient écouter des disques à l'école que je connaissais déjà. La musique que nous entendions à Kansas City était la même que celle que nous avions découverte durant notre enfance à Saint-Joseph. En revanche, je me souviens d'avoir rencontré un certain Stump Evans à l'époque. Il jouait du saxophone ténor et de la clarinette. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais j'ai un bon souvenir de ce personnage.
Played quite well too.
Le fameux Stump Evans que Coleman Hawkins évoquait lors de l'interview de 1956 que nous vous proposons aujourd'hui fut une comète dans l'histoire du jazz. Il disparut en 1928 à seulement 24 ans, victime d'une tuberculose que l'on soignait guère à l'époque. Comme Coleman Hawkins, il était né en 1904 et devenait un instrumentiste très audacieux au point de séduire le cornettiste et chef d'orchestre Joe Oliver. Je vous le disais en début d'émission, évoquer la destinée de Coleman Hawkins, c'est également voyager dans le temps, découvrir les personnalités de l'époque, les contemporains de Coleman Hawkins, les musiciens de sa génération, les Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Jack Teagarden, qui tenaient tous un rôle essentiel dans l'évolution du jazz il y a 100 ans. Lors de sa causerie avec Bill Grower et Paul Bacon en 1956, Coleman Hawkins acceptait de se remémorer toutes ses rencontres avec ses colistiers d'autrefois, comme cette répétition avec les trombonistes Jack Teagarden et Jimmy Harrison.
After this first night,
après cette première nuit de répétition, Jimmy Harrison et Jack Teagarden étaient devenus inséparables. Finalement, chaque soir, je les retrouvais chez moi et nous restions ensemble jusqu'au lendemain après-midi sans vraiment avoir dormi. On buvait, on grignotait, on discutait et on jouait de la musique ensemble toute la nuit. Jimmy et Jack ne cessaient de se taquiner. Ils essayaient de se prouver l'un l'autre qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils étaient les premiers à avoir inventé telle ou telle suite d'accords. Je me mettais donc au piano et eux se lançaient dans des duels de trombones. Ça pouvait durer une nuit entière. On s'arrêtait parfois pour écouter des disques et on reprenait nos interminables répétitions. Jack Teagarden avait de l'endurance car il participait très régulièrement à des soirées musicales fort festives. D'ailleurs, je ne devrais peut-être pas le mentionner ici, mais il mangeait un peu n'importe quoi lors de ces soirées. Il suffisait d'aller jeter un œil dans les cuisines pour comprendre. Il y avait toujours une énorme casserole sur le feu remplie d'ingrédients indéfinissables. Que voulez-vous ? C'est ce qu'il aimait.
You know what I mean? That's what he likes. Well, it's always funny because Jack made himself right at home.
Jack était chez lui dans les clubs de jazz. Je ne sais pas quand il dormait car nous avions l'impression qu'il jouait du trombone nuit et jour. Ce fut une sacrée expérience d'être à ses côtés. Jimmy Harrison n'avait jamais vu un musicien jouer du trombone comme Jack Teagarden. Il arrivait vers 16h et quittait le club à 9h du matin, le lendemain. et parfois on le voyait faire le tour du cadran. Nous travaillions beaucoup à l'époque, mais nous ne nous faisions pas beaucoup d'argent. Les clubs étaient pleins à craquer et pourtant, on avait à peine de quoi se payer un verre. Heureusement, parfois, on vous sollicitait pour une prestation bien particulière, mais la plupart du temps, vous deviez vous contenter de jouer sans discontinuer pour essayer d'attirer l'attention. Il y avait une foule de grands instrumentistes à l'époque. Teddy Wilson, Art Tatum, Clyde Hart et tant d'autres. Les bars, les salles de spectacle, les clubs étaient bondés, mais personne, pas même le tenancier, n'avait la présence d'esprit de nous offrir un verre. Nous étions sur scène, tout le monde s'amusait, mais personne ne pensait vraiment à nous. Au fil des années, Coleman Hawkins gagne en maturité artistique et monte son propre orchestre. Nous sommes au cœur des années 30 et l'envie de découvrir d'autres territoires musicaux le pousse à traverser les océans. Il se rend donc en Europe où il enregistre avec les musiciens locaux. À Paris, le 2 mars 1935, il enregistre le titre Stardust avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Il restera quelques longs mois sur le vieux continent avant que la montée du fascisme ne le persuade de rentrer aux États-Unis. Pendant son absence, le jazz a progressé et de nouvelles têtes sont apparues. Coleman Hawkins découvre à son retour aux États-Unis qu'un certain Lester Young a désormais les faveurs du public et lui fait de l'ombre. Il n'a cependant pas dit son dernier mot et enregistre en 1939 le titre qui fera sa gloire, Body and Soul. Ce son acrobatique et velouté le hisse subitement au rang des grands solistes du jazz et inspirera de très nombreux saxophonistes, dont l'illustre Sonny Rollins, qui l'invitera en 1963 sur l'un de ses albums. Sonny Rollins ne sera pas le seul au fil des années à souhaiter dialoguer en studio avec le patriarche du saxophone ténor. Duke Ellington lui-même convia Coleman Hawkins à enregistrer un album entier en 1962. Coleman Hawkins a traversé 50 ans de l'histoire du jazz, un demi-siècle crucial puisqu'il vit la naissance du swing, puis l'arrivée du bebop et l'enrichissement progressif de ce qu'on appelle désormais la musique classique afro-américaine qui se nourrit d'influences culturelles toujours plus étendues. Coleman Hawkins avait les oreilles grandes ouvertes et les rythmes latins ou africains l'intéressaient. Sur ce disque de 1962 intitulé Desafinado, il s'essayait à la bossa nova. Ce ne fut certainement pas son plus grand album, mais il témoignait de son désir de sans cesse se renouveler. Mon style évoluait en fonction de ce que j'écoutais au fil des années. C'est quelque chose de très spontané. Je n'ai pas eu à répéter sans cesse pour le faire évoluer. Je n'ai pas essayé d'apprendre un genre de jazz. Je l'interprétais tout simplement. Il m'est arrivé de jouer complètement différemment d'une année à l'autre, mais cela se produisait de manière totalement naturelle, en fonction de ce que j'entendais autour de moi. Inconsciemment, je mémorisais ce que j'entendais. Cela ne ressortait pas immédiatement le lendemain, mais parfois 6 mois plus tard. C'est ainsi que les styles de musique se développe. Par exemple, chaque fois que je rentrais d'une tournée avec Fletcher Anderson, j'avais l'impression d'avoir appris à jouer différemment. Nous avions joué dans des endroits tellement différents, dans des clubs tellement nombreux, que j'avais eu l'occasion d'entendre des centaines de musiciens à travers les États-Unis. Et dès que j'entendais un instrumentiste entamer un solo intéressant, je tendais l'oreille. Il y avait beaucoup d'excellents jazzmen à cette époque et de très bons orchestres. Je ne vous parle pas ici des big bands, mais de petites formations de 5 ou 6 musiciens. À Kansas City, à Saint-Louis, à Indianapolis, à Détroit, j'entendais tout type de musiciens et tout type de sonorités. Par conséquent, quand je rentrais à New York, j'avais l'impression d'avoir appris énormément. Mes camarades ne s'en rendaient pas forcément compte parce qu'ils avaient l'esprit ailleurs. Ils pensaient davantage à faire la fête ou à rencontrer des filles. Moi, ma cour de récré, c'était les clubs de jazz. Disparu en 1969, Coleman Hawkins aura été un acteur et témoin privilégié d'une révolution musicale qui continue de nous passionner aujourd'hui. Il aura croisé la route de légendes comme Count Basie, Louis Armstrong, Duke Ellington, mais aussi de jeunes talents nommés Thelonious Monk, Dizzy Gillespie ou Max Roach. Le regretté Tommy Flanagan, qui fut son pianiste au tournant des années 60, ne tarissait pas d'éloges à son égard. J'ai vraiment apprécié certaines périodes de ma vie, notamment le fait de jouer aux côtés de figures légendaires de l'histoire du jazz. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est de me retrouver face à Coleman Hawkins, qui est le père du sax ténor et qui m'a beaucoup inspiré. Ce fut un bon professeur, une de mes influences majeures. Son souci d'exceller à travers les années fut un exemple. Nous étions tous de jeunes musiciens à l'époque, mais j'étais sûrement le plus jeune de l'équipe. J'étais donc en admiration devant ces géants. Et avoir la chance de jouer avec l'un d'eux était un rêve. Coleman Hawkins était une figure majeure, tout comme Art Tatum, que j'ai eu le privilège de voir sur scène. Bud Powell également.
Coleman and Art Tatum and Bud Powell.
Difficile de résumer en quelques minutes la destinée d'un personnage aussi essentiel dans l'histoire du jazz que Coleman Hawkins, d'autant que nous avons triché en début d'émission. Nous avons décrété, par simple commodité, que Coleman Hawkins était né le 21 novembre 1904 à Saint-Joseph, dans le Missouri. Certes, il y a grandi, mais la vérité est tout autre, comme il le précisait en 1956 lors de l'interview qu'il accorda à nos confrères Bill Grauer et Paul Bacon. Cela fait des années que je le répète à vos confrères journalistes, mes parents voyageaient beaucoup et il m'est difficile de vous dire précisément où je suis né. Certains disent sur un bateau au milieu de l'Atlantique alors que mes parents revenaient du continent européen. Officiellement, je suis né à Saint-Joseph dans le Missouri, mais le doute est permis. Mademoiselle de Paris, oui, vous avez bien entendu, Mademoiselle de Paris, c'est le titre de cette composition en français immortalisée par Coleman Hawkins en 1956 en hommage à cette ville qu'il adorait et dans laquelle il partageait la scène avec de nombreux musiciens dès les années 30. Curieusement, cet album The Hawk in Paris ne fut pas enregistré dans la ville Lumière, mais à New York en juillet 1956. Qu'importe, cette révérence à notre capitale nous enchante et referme joliment cette épopée conçue grâce aux archives de Frémo et Associés et au label Riverside Records qui édita en 1956 en double vinyle l'interview que vous venez de suivre partiellement dans cette émission. Remercions au passage Nathalie Laporte qui a ressorti sa vieille platine disque pour vous permettre de réécouter ce document historique 65 ans après sa parution. La semaine prochaine, nous continuerons à dépoussiérer quelques archives essentielles comme cette interview du saxophoniste Lester Young réalisée en 1958 et éditée dans le coffret The Complete Lester Young Sessions on Verve. D'ici là, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.
Les couleurs du son et RFI Talent présentent